Frères et sœurs, je vais lire avec vous le psaume 101. Dont le premier verset a été mis en exergue sur la feuille d'invitation pour le témoignage de louange de cet après-midi. Et en choisissant ce verset, eh bien, j'avais lu l'ensemble du psaume et je m'étais dit qu'il fallait quand même apporter une instruction à ce sujet, en tout cas relever l'ensemble de cette parole. Alors je vous le fais la porte ce matin. De David, psaume, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans la maison, dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Psaume de David, en tant que roi, c'est le roi qui s'exprime ici. Et nous voulons retenir ces paroles en pensant à celui qui dirige, en pensant à Jésus, le roi, et puis en pensant à nous-mêmes, là où le Seigneur nous demande aussi de régner, d'avoir une autorité. Alors déjà, on peut dire, voilà, la manière de régner de David. Nous pouvons voir dans le livre de 2 Samuel au chapitre 8, verset 15, que David régna sur Israël et qu'il faisait droit et justice à tout son peuple. Voici la manière dont David régnait. Il régnait par le droit et la justice. Et cela lui venait de sa relation avec Dieu. Comme nous le voyons dans son dernier cantique qui se trouve au chapitre 23 du prophète Samuel, les versets 1 à 7, qui sont bien les dernières paroles de David. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël m'a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuage. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tous mes désirs? Mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Voilà comment David peut résumer sa relation avec Dieu, son règne, les promesses que Dieu lui a faites. Il est entré dans la lumière du Seigneur, il l'a mise en œuvre dans sa vie, sa propre vie, dans son règne. Il régnait comme le Seigneur lui avait demandé, avec justice. Il régnait dans la crainte de Dieu. Et David est certainement le roi qui, malgré une faute personnelle à un moment donné, et une dernière faute par rapport à un dénombrement qu'il a voulu faire à la fin de sa vie, malgré donc en quelque sorte ces deux fautes, est un roi qui a régné vraiment en appliquant la justice de Dieu, qui cherchait Dieu, un homme selon le cœur de Dieu, et qui était aussi un chantre, qui a commencé, on peut dire, sa carrière en chantant les louanges du Seigneur, et qui a installé dans le culte les louanges à la gloire de Dieu, une équipe de chantres pour glorifier le Seigneur, et qui a même conçu des instruments pour les louanges de Dieu. Et donc on voit que il commence ici ce psaume 101 par ces paroles finalement surprenantes par rapport au reste du psaume. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi Éternel que je chanterai. Et puis ensuite, il parle de ce règne où il veut éliminer tout ce qui est toute forme d'iniquité, toute forme d'impiété autour de lui. David était un chantre, David avait un cœur pour louer Dieu, mais il ne faisait pas que chanter. Et là, il faut considérer que le psaume a sa cohérence à partir de ses premiers versets. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite, quand viendras-tu à moi? La manière de chanter de David, c'était de se tourner vers Dieu. Il chantait, non pas pour Dieu, mais il chantait à Dieu. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Bien sûr qu'il chantait aussi pour Dieu, mais il chantait principalement à Dieu. Son chant était plutôt comme un appel. Quand viendras-tu à moi? Sa manière de chanter à Dieu, c'était aussi une manière d'appeler le Seigneur. Et pour notre part, vraiment, lorsque nous chantons, que notre chant soit sans hypocrisie. Voyons que le chant de David se répliquait dans sa vie par un souci de justice, de pratiquer vraiment, de marcher dans l'intégrité. Eh bien, nous voyons dans le livre d'Amos que certains ne chantent pas du tout de cette manière-là. Hein ? Lorsque nous lisons au chapitre 6 d'Amos, alors je prends à partir du verset 3, « Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Ils extravaguent au son du luth. » Il se croit habile comme David sur les instruments de musique. Et ils boivent du vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile, ils ne s'attristent pas sur la ruine de Joseph. Voilà certains qui chantaient et qui étaient apparemment habiles dans la musique, dans le maniement des instruments. Et ils pensaient égaler ou imiter le roi qui chantait pour Dieu. Mais c'était complètement en dehors de l'esprit des chants de David. Totalement en dehors. L'apôtre Paul pouvait, lui aussi, arguer de son intégrité. Hein, lorsque nous lisons chapitre 24, verset 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Eh bien, nous voyons ce même apôtre, lui aussi, être capable de chanter les louanges du Seigneur, mais pas dans une situation facile, dans une situation d'adversité. Hein, si nous allons au chapitre 16 du livre des Actes, au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. » Voilà Paul et Silas qui étaient donc dans les fers, qui étaient en prison, et qui au milieu de la nuit priaient et chantaient les louanges de Dieu. Voilà une manière de chanter qui est agréable à Dieu. Lorsque quelqu'un a, comme l'apôtre, la possibilité de dire « J'ai cherché toute ma vie à marcher dans la droiture, dans l'intégrité, selon la justice de Dieu, d'avoir une bonne conscience sans reproche, et que, étant mis à l'épreuve, il chante les louanges du Seigneur », alors là, il y a une authenticité. Et puis, nous pouvons bien sûr penser à Jésus. Jésus, lui aussi, a chanté. Et il a chanté à un moment bien particulier. Il a chanté au moment où il allait se rendre à Gethsémané, au jardin de Gethsémané. Cette petite mention de Matthieu, chapitre 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Jésus, en chantant les cantiques, se disposait à faire la volonté du Père. Il s'apprêtait, il s'imprégnait de la parole de Dieu à travers ses cantiques pour aller prier et pour aller dire au Père que ta volonté soit faite et non la nôtre et non la mienne. Donc vous voyez que le chant, le véritable chant, participe à une vie de consécration à Dieu. On ne chante pas à Dieu avec légèreté. On ne chante pas à Dieu de façon, sans qu'il y ait une véritable recherche de sa présence et de sa vérité dans notre vie. Alors David ne faisait pas que chanter, il marchait dans l'intégrité. L'intégrité personnelle qui s'exprime d'abord là où nous avons une autorité et qui s'étend ensuite là où Dieu nous confie des responsabilités. Ici, il est d'abord question pour David de sa maison. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Et il le répète au verset 7, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Et c'est là que nous avons chacun à mettre en œuvre tout d'abord l'intégrité que le Seigneur nous demande d'avoir. Chacun dans sa propre maison. Et ensuite, à la fin du cantique, « Je réduirai au silence tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité, puisqu'il était roi. » Donc, la maison, la ville, le pays, tout va être ensuite conduit selon la vérité du Seigneur, et tout ce qui est mauvais va être rejeté. L'Église a, premièrement, à veiller à mettre en œuvre la vérité de Dieu en son sein. Hein, vous connaissez cette parole de Paul aux Corinthiens. Qu'ai-je à juger ceux du dehors ? 1 Corinthiens 5, 12. N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger ? Et comme il est vrai que Le jugement va commencer par la maison de Dieu. L'Église locale a comme première mission de veiller à ce que, en son sein, il y ait la droiture, la vérité, la justice, la bonté du Seigneur. Mais même Jésus, lorsqu'il était sur cette terre, il a d'abord chassé les marchands de la maison de son père. Là où Jésus s'est véritablement fâché et a chassé les marchands, c'était dans sa propre maison, dans la maison de son père. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Et c'est là qu'il avait une pleine autorité dans le temple. Il avait une pleine autorité pour chasser ces marchands du temple. Et ensuite, au temps de Dieu, il paraîtra et il pètera les nations avec une verge de fer, selon ce qui était donc prophétisé au psaume 2. Demande-moi les nations pour héritage. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, l'extrémité de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et nous retrouvons cette main de fer de celui que Dieu a oint dans l'Apocalypse, au chapitre 12, verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et cette verge de fer, eh bien, elle n'est pas seulement entre les mains du Fils de Dieu, elle est aussi, elle fait aussi partie de l'équipement que Dieu, que le Seigneur donne à ceux qui ont vaincu avec lui, puisque au chapitre 2, verset 27, dans les lettres aux églises, il est aussi écrit, 26, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon père et je lui donnerai l'étoile du matin. Ce qui signifie que Jésus va nous associer à son règne de justice, tous ceux qui ont marché dans la vérité, qui ont vaincu, qui ont été fidèles au sein de ce monde. Mais voilà, nous ne pouvons pas aller faire la justice dans le monde si nous ne la faisons pas d'abord dans notre propre cœur, dans notre propre vie, et si nous ne marchons pas dans, au sein de notre maison, dans l'intégrité. Dans notre sphère de responsabilité, être intègre suppose d'écarter les pervers et d'honorer les fidèles. Il ne s'agit pas seulement d'être intègre pour nous-mêmes. Il s'agit aussi de faire régner la justice là où nous en avons le pouvoir. Puisque David dit bien, le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant, celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence, celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison, celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Donc, l'intégrité ne supporte pas de voir l'injustice s'affirmer près d'elle. Et en particulier, donc, chaque chef de famille, chaque responsable de sa famille, parfois, malheureusement, il n'y a plus le chef homme, mais l'épouse a gardé une autorité sur ses enfants et elle dirige ses enfants, eh bien, chaque chef de famille a à cœur que dans sa maison, les choses se passent selon Dieu, dans la vérité de Dieu, que ses enfants suivent la voie de Dieu, que tout ce qui se passe dans la maison soit conforme à la justice de Dieu. Et parfois, cela peut entraîner certaines confrontations et en tout cas des explications qui sont inévitables parce que celui qui a l'autorité dans la maison cherche à faire en sorte que la vérité de Dieu soit mise en œuvre aussi parmi ceux sur qui il a autorité. Alors bien sûr, nous reconnaissons par ce psaume que David a exercé selon la justice de Dieu, mais que celui qui va véritablement manifester cette justice, et quand même, chaque matin je réduirai au silence tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité, qui peut prétendre à pouvoir agir de cette manière-là, hein, si ce n'est le Seigneur Jésus lui-même. Je crois qu'il faut vraiment réserver ce verset 8 à notre Seigneur, c'est lui le roi de justice. C'est personne d'autre qui va établir ce règne de justice. C'est lui. Mais nous disposons à faire de même dans notre cercle d'autorité. Et il y a la maison, mais parfois le Seigneur nous confie aussi une responsabilité dans d'autres cercles. Eh bien, c'est la même chose. Nous manifestons le même rejet des mauvaises actions le même accueil des pratiques de justice lorsque nous sommes en responsabilité quelque part. Et il arrive parfois que des chrétiens sincères et en toute bonne conscience devant Dieu doivent, dans leur entreprise par exemple, eh bien, ne pas accepter que certains collaborateurs commencent à trafiquer, etc. etc. hein. Et si nous le faisons, eh bien, c'est tout à fait juste. Et même là, on peut dire la société elle-même finit par réaliser que, oui, des personnes ont une responsabilité par rapport à ce qu'elles voient autour d'elles qui pourrait être de l'ordre de l'injustice, du trafic, et qu'il est nécessaire de ne pas laisser s'installer des mauvaises pratiques au sein, par exemple, d'une société. Donc le Seigneur nous parle dans ce psaume de cette marche dans l'intégrité, de cette volonté de voir autour de nous une situation saine, véritablement. Et bien, cela est lié au fait de chanter. Ça découle du fait de chanter la bonté et la justice. Si nous chantons la bonté et la justice du Seigneur, si nous rappelons dans nos chants l'œuvre de Dieu accomplie en Jésus-Christ, si nous nous réjouissons de son salut, eh bien, nous nous dirigeons aussi vers une vie de responsabilité et nous sommes cohérents et conséquents dans notre vie personnelle. Donc j'invite en particulier tous les responsables de famille de mettre en œuvre véritablement cela chez eux, et puis moi-même pour la vie de l'Assemblée, et de prier que justement nous puissions vraiment marcher tous ensemble dans la justice de Dieu, que rien de mauvais ne se pratique au milieu de nous. Et alors nous pourrons continuer à chanter, nous pourrons développer un chant qui est véritablement à la gloire de Dieu, un chant qui n'est pas une hypocrisie, un chant qui n'est pas un spectacle que l'on donne, mais un chant à Dieu. Nous pourrons continuer à chanter à Dieu dans l'intégrité de notre cœur. Et là, le Seigneur sera glorifié, nous serons réjouis de voir sa main aussi agir au milieu de nous parce que nous avons mis en œuvre sa volonté. Amen.